Bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 26 juillet 2018. Vous êtes avec l'équipe du jeudi pour ce Canu Info qui sera pour nous le dernier de cette saison 2017-2018, n'est-ce pas Laurent ?
Tout à fait Delphine, puisque nous reviendrons fin août, début septembre, mais là nous allons faire un petit break.
Tu as spolié comme on dit,
j'ai dit fin août, début
que
septembre,
nous allons revenir.
Oui, ah ouais, il faut toujours dire.
Tu as raconté, ça y est, la fin de l'histoire.
Il faut toujours spoiler un peu.
Ça, un petit peu, oui, comme ça on spoilie la vie. Allez, donc pour notre dernier Canu Info, avant que nous ne prenions quelques congés nous-mêmes, nous ouvrirons sur GG, oui, comme la semaine dernière, et c'est encore Laurent qui va s'y cogner. Nous parlons ensuite des barbares, vous savez. Ce sont les pays qui pratiquent la peine de mort et nous irons au Japon et nous reviendrons un petit peu sur l'Arabie Saoudite. Nous parlons de licenciement, hein, ça c'est toi qui vas nous causer tout ça. Et puis après nous aurons une petite partie censure, on parlera de Facebook, d'Israël, de Chine. Nous irons du côté de la pollution parce que oui, c'est l'été, le ciel est bleu, il fait très chaud. C'est très pollué. Peut-être que comme moi, vous le savez, puisque votre nez réagit fortement à la pollution, et votre asthme aussi peut-être. Nous parlerons d'OGM pour continuer un petit peu dans la même idée environnementale, ou en tout cas non environnementale. Nous vous enverrons au ciné, parce que c'est climatisé. On vous parlera d'un film
chinois
qui s'appelle Une pluie sans fin, de Dong Yue. Et puis après, on vous parlera de Parcoursup, et peut-être d'Ojo, si on a le temps. Et si on a l'envie, parce qu'on ne va pas vous le cacher, on a déjà faim.
Et chaud.
Et chaud. Donc nous avons le cerveau encombré, mais ça ne nous empêche pas d'avoir bien continué à analyser et écouter tout ce qui se disait autour de Gérard et de ses amis.
Bon, du coup, je ne vais pas faire un truc d'information sur ces gens, mais ce qu'on peut quand même constater en intro de ce Canu Info, c'est qu'ils se foutent tous de notre gueule. Et je pense que là, on bat des records. Ceux qui voulaient nous faire croire qu'ils allaient faire la politique différemment, ils font de la politique comme les autres, pleine de choses nauséabondes. Exactement comme les présidents précédents. Alors pour le coup, on se rapproche beaucoup plus de Sarkozy dans la manière de faire, dans l'irrespect, dans le mépris, dans la haine que peuvent avoir ces gens-là pour les gens normaux. Eux, ils se sentent bien évidemment au-dessus. Et donc voilà, on est juste méprisés par ces gens-là, mais qu'ils se rassurent, on les méprise totalement aussi. Nous avons pu entendre, avoir un truc qui m'a beaucoup plu, des propos off un petit peu tenus par Gérard Collomb, c'est le canard enchaîné qu'il disait. il paraît dit, il vaut mieux passer pour quelqu'un d'un peu incompétent que pour un délinquant. Ce qui expliquerait un petit peu les omissions, voire les mensonges qu'il a fait devant le Parlement, notamment. Donc voilà, il a dit qu'il savait rien, etc. Il avait eu l'air vraiment nul, et c'est sa technique, plutôt que de dire je savais et d'avoir soutenu effectivement un délinquant, puisque M. Benalla a tapé des gens dans la rue, et c'est donc un délit, et c'est donc un délinquant. Donc là... On se fout pas mal de notre gueule du côté de Colomb, et alors ça plaît pas à tout le monde ce qu'il est en train de faire Colomb, parce que il sait très bien que son poste va pas durer très longtemps, si au mieux il va jusqu'à la fin du quinquennat, et on se dit, parce que nous on est comme ça, on se dit à 71 ans peut-être qu'à un moment il faut qu'il se repose, GG. Eh ben non. GG, il a prévu de revenir à Lyon, donc il a monté une nouvelle association politique qui s'appelle Prendre un temps d'avance, pour préparer la prochaine campagne municipale à Lyon. Donc c'est pas une fake news, hein, c'est un fait réel. Et ça, alors, cette association, la Prendre un temps d'avance, ça a pas mal énervé ses deux successeurs, que sont David Kemmerfeld, qui est le président de la métropole, et Georges Capenekian, qui est le maire de la ville de Lyon. Eux, ils l'ont assez mal pris, ce retour de Gérard Collomb, parce que je pense que dans leur tête, et comme dans la mienne d'ailleurs, ils s'étaient dit, ben voilà, Gérard Collomb, il a rêvé pendant 40 ans d'être ministre, il est ministre, en plus ministre de l'Intérieur, ministre d'État, tout ça, il va pas revenir, il va s'arrêter. Et ben non, là, Gérard Collomb a bien expliqué que cette association, c'était pour préparer son retour à Lyon. Donc il se prépare pour les élections. Alors il paraît, alors ça c'est des bruits derrière qui traînent, qu'il y a des négociations, notamment peut-être avec M. Kepetekian, pour qu'en fait y en ait un qui se présente au Sénat et un qui se présente à la mairie de Lyon. Hein, donc a priori il laisserait Kepetekian au Sénat, sur la liste bien évidemment, parce qu'il faut quand même que les électeurs y votent, hein, ils choisissent, hein, celles et ceux qui croient encore à la démocratie représentative. Donc c'est le deal qui est en cours, il paraît, entre Gérard Collomb et M. Kepenekian, puisque les élections auront lieu en 2020 et que c'est la même année où il y a les sénatoriales, donc pour les sénateurs, les municipales et les métropolitaines. Hein, il y aura c'est l'année...
C'est un pack groupé, quoi.
C'est un pack groupé. C'est là où Collomb veut revenir. Et comme Kepenekian, c'est un peu son sous-fifre, il va pas le jeter comme ça, il va essayer de lui trouver un siège, et le siège, ce serait sa place au Sénat, en fait, voilà. Voilà ce qui se négocie derrière notre dos, sur ces petites magouilles de politique politicienne. Ils se moquent de nous, et voilà. Alors, on va terminer quand même avec un petit mot sur l'affaire Benalla, parce qu'il y a eu la longue interview dans Le Monde, qui est énorme, où Benalla dit... donc, on se rend compte que tout le monde ment, en fait, dans l'affaire. Benalla, en ce moment, il s'engueule avec les responsables, parce qu'ils disent pas la même chose. Gérard Collomb a dit qu'il ne connaissait pas le rôle exact de Benalla et qu'il l'avait quasiment jamais rencontré. Or, Benalla, dans l'interview, dit Monsieur Collomb sait que je travaille avec le président de la République et je le croise, il dit, je peux le croiser 2, 3 ou 4 fois par semaine. Vous imaginez ? Donc en fait, voilà, Gérard Collomb a... Alors soit il est trop vieux parce qu'il n'a plus de mémoire du tout, ça pourrait être ça, soit il a menti quelque part. Je vous laisse choisir, vous, a priori, quelle serait la vraie réponse. Tu voulais dire quelque chose ?
Je te laisse terminer.
Et alors, Benalla, il va très très loin, lui. Hein. C'est, lui aussi, il est pas mal dans le genre « je me fous de votre gueule ». Il a dit sur le tabassage des deux personnes le 1er mai, j'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise et d'avoir commis une faute. On se dit, c'est plus qu'une faute, t'as tabassé quelqu'un quand même. Bon, bref. Mais cette faute, elle est plus d'un point de vue politique. Donc pour lui, taper quelqu'un, c'est pas un problème en fait. C'est la répercussion politique qui est grave. Hein, mais comme il est tellement proche des flics, on sait que c'est aussi l'habitude et l'argument des flics que c'est pas grave de taper sur les gens. Donc il dit, je n'aurais jamais dû aller sur cette manifestation en tant qu'observateur, puis j'aurais peut-être dû rester en retrait. Voilà. Et sur les violences, il dit, non, il n'y a eu aucun coup, il n'y a pas de tabassage. Bizarrement, les vidéos montrent l'inverse quand même, notamment sur l'homme qui est beaucoup plus visible, voilà, où il y a plein d'angles, hein, où on voit bien cette vidéo, où il tape quand même dessus, le gars. Hein. Et alors après, il va très très loin, parce qu'il est un peu complotiste sur les bords, dans sa pseudo-défense, il dit « On a essayé de m'atteindre, de me tuer. » Putain, moi j'ai vu personne qui avait sorti un truc pour le tuer. Et il dit que c'était l'opportunité aussi d'atteindre le président de la République. Alors là, c'est un beau mensonge parce qu'en fait, quand la vidéo a été révélée, personne ne savait qui c'était ce gars. En fait, la vidéo a été révélée et c'est au cours des jours qui ont suivi qu'on a appris plein de choses sur Benalla. Donc a priori, je ne suis pas sûr que les journalistes qui avaient révélé ça savaient que, imaginaient tous les tenants et aboutissants de l'affaire et toutes les escroqueries qu'il y a derrière, tous les mensonges qu'il avait pu faire, voilà, le brassard de les flics alors qu'il n'est pas flic, tous les trucs qu'on a découverts depuis. Donc lui, il dit qu'il y a un complot. Quelque part. Alors, je cite, il dit, les gens qui ont sorti cette information sont d'un niveau important. Je ne sais pas ce que c'est quelqu'un d'un niveau important. En général, en France, on est presque tous égaux, sauf les services secrets et les membres de la police, hein, qui sont des gens au-dessus du reste de la population en termes de droit, malheureusement pour nous. Donc voilà, il est dans une espèce de défense un peu folle. Voilà, et puis bon, Macron, il a émis énormément de propos méprisants envers le commun des mortels. Ces gens-là, ils sont vraiment dans l'aberration qu'est le pouvoir. Hein. Le pouvoir entraîne forcément ce genre de choses. On a forcément cette sensation d'être au-dessus des autres quand on a du pouvoir. C'est pour ça que c'est le pouvoir qu'il faut vraiment faire tomber un jour. Et donc voilà, Macron, il fait son Sarkozy, il se croit plus malin que les autres. Il avait déjà rabroué un adolescent qui parlait comme un ado, avec un mépris de classe énorme. Et là, il y a à nouveau un mépris de classe envers le reste, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Donc voilà, on les méprisera, et on va pas revenir plus que ça sur l'affaire. C'est quand même assez affolant les réactions.
Moi, je voudrais revenir sur cette affaire de Gérard qui veut revenir sur Lyon. Quand on en a discuté tous les deux, moi, tout de suite, je te disais, oui, mais il va jamais pouvoir gagner. Alors, maintenant, avec cette affaire, bien évidemment, quand il a voulu remonter ce groupe pour pouvoir revenir chez lui, on pense bien qu'il a voulu revenir avec son aura de ministre sur son CV. Elle est là, l'idée
il
de...
Est toujours ministre.
Oui, mais il s'est dit, voilà, je vais revenir avec cette aura-là, ça va percuter, les Lyonnais et les Lyonnaises vont revouloir de moi. Ce qui est intéressant, c'est que avec quelle étiquette il va revenir, avec celle de La République en Marche.
Je crois que c'est ce qui est prévu. Hein.
Bon, c'est une question, mais je vais citer aucun lieu parce que c'est des gens qui nous ont raconté des choses sur ce qui se passe sur Lyon et que j'ai pas forcément l'autorisation de tout vous raconter. Hein. Je vais pas demander, mais j'en profite. On a eu des discussions avec des gens qui nous ont expliqué que La République en Marche est actuellement en train de se balader depuis plusieurs mois sur Lyon dans des lieux dits tendance ou des lieux qui sont des lieux des bars, des restaurants où soit il y a des personnalités qui tiennent le lieu, soit c'est des lieux festifs. En tout cas, La République en Marche envoie ses troupes dans quelques endroits comme ça, dîner, louer des lieux pour essayer d'exister dans certains quartiers. Alors c'est le cas sur le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, du quartier de la radio. On sent qu'il y a une espèce de recherche pour essayer de s'installer et pour exister, parce que pour l'instant on a des gens qu'on ne connaît pas, des élus qui n'existent pas. Alors on nous dit qu'ils sont de la société civile, mais a priori jusqu'à présent, comme on ne connaît pas leur tête, ben on ne sait pas qui c'est. Donc il y a quand même une espèce de stratégie d'aller se balader comme ça pour essayer d'exister, pour essayer de se faire connaître, et avec une stratégie quand même un peu tendance, on va aller là où les gens qui pourraient nous soutenir vont. Alors, pour tout vous dire, si nous, il y a des choses qu'on a apprises, parce qu'il y a des endroits, ça s'est pas super bien passé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent prendre le pognon, hein, mais finalement, derrière, ils en pensent pas moins. Voilà, c'était juste les petites anecdotes que j'avais envie de vous raconter. On va parler des barbares, donc de ces pays qui pratiquent toujours aujourd'hui la peine capitale, la peine de mort. Et on va retourner au Japon, puisqu'on n'a pas du tout parlé des mises à mort des membres condamnés à la peine capitale de la secte Aoun. Je vous rappelle, une secte
religieuse, avec un beau gourou.
Ouais, alors plus que religieuse, hein, parce qu'il mélangeait un petit peu tout plein de choses. Alors un attentat
assez incroyable.
Le 20 mars 1995 à Tokyo, une secte avec qui a compté, je sais plus combien c'était, je suis en train de rechercher le chiffre, mais des dizaines, 10 000 fidèles à un moment, il y avait. C'est un truc énorme, hein, qui a même dépassé les frontières du Japon. Le gourou s'appelait donc Shoko Asahara, c'est pas son vrai nom, mais c'est comme ça, sous ce nom-là, sous lequel il a été gourou. Le 20 mars 1995, 13 personnes sont mortes, 6300 autres ont été intoxiquées, donc certaines très gravement, ont eu des séquelles. C'est du gaz, hein, donc...
C'est un gaz de combat, quoi. Enfin, il a fait...
Ouais, un truc de fou, quoi.
Le but, c'était de tuer le plus de personnes possible, quoi.
La secte, pour l'instant, est accusée d'avoir en tout tuer ou être responsable de la mort de 29 personnes et de 6500 blessés. Puisque quand on reprend un peu l'histoire de cette secte Aoun, on s'aperçoit qu'il y a bien eu d'autres attaques. Alors certaines n'ont été révélées qu'une fois que les membres ont été arrêtés, après cette attaque du 20 mars 1995. Et c'est parce qu'il y a eu des procès qu'on en a su un peu plus sur leur agissement. Certaines personnes ont essayé de parler, je vais en revenir là-dessus. Toujours est-il que donc, le Japon pratiquant toujours la peine de mort, ce sont donc 13 condamnés de la secte Aoun qui ont été exécutés. Et c'est fini, aujourd'hui, le gouvernement...
Tous ceux qui ont été condamnés à mort ont été tués.
Ouais, ont été exécutés, assassinés. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement japonais aujourd'hui, par pendaison. Les 6 derniers, c'était donc ce matin, enfin le jeudi matin japonais, hein, vous remettez hop, d'aplomb les choses. Les autres avaient été exécutés, pendus le 6 juillet dernier. Donc le gourou et ses 12 disciples, hein, donc 13 personnes, le chiffre... voilà, pourrait faire comme amener beaucoup de commentaires. Il y avait 190 membres de la secte, hein, qui ont été condamnés à diverses peines en tout, hein, depuis ces procès suite à l'attaque de Tokyo en 95. Et c'est quand même 23 ans après. Normalement, pourtant, dans la loi japonaise, on doit être exécuté dans les 6 mois où la peine capitale a eu confirmation. C'est-à-dire qu'il y a eu une confirmation de la sentence. Mais c'est vrai que, comme on le rappelle hein, souvent ici, le Japon exécute toujours ses condamnés en secret. Les familles l'apprennent après ou sont prévenues le jour même. C'est pas très démocratique, hein, tout ça. La peine de mort ne l'est pas, très certainement, mais la méthode est complètement naze, hein, il faut bien le dire. Donc, on a appris quand même que la ministre de la Justice, Madame Kamikawa, avait expliqué que ces meurtres ne devaient jamais plus se reproduire. Oui, ben ça, on imagine bien. Et que la sentence était donc inévitable. C'est-à-dire que, ben, en exécutant ces membres de la secte Aoun, c'est quoi l'espoir que ça se refasse pas, c'est ça? Qu'il n'y ait jamais plus d'attentats?
Et surtout que des sectes au Japon, des sectes comme ça, religieuses, il y en a quand même quelques-unes. S'il y avait 10 000 adeptes à un moment, il y a des milliers, des dizaines de milliers de Japonais et de Japonaises qui sont dans ce genre de mouvement, qui peuvent à un moment devenir très dangereux. Effectivement, si on veut supprimer ce genre de mouvement, il ne faut pas assassiner la tête d'un gourou qui commet un attentat. Il faut faire de la pédagogie, il faut faire plein de choses dans l'éducatif, voilà, il faut tout faire pour empêcher ces sectes d'agir, voire les interdire. Mais voilà, alors là, ça ne résout rien du tout. Ils étaient déjà en prison, ils étaient plus nocifs à personne et ils ne méritaient certainement pas la peine de mort, même si on est quand même dans des gens qui sont particulièrement odieux.
Alors, c'est d'autant plus intéressant au Japon, c'est qu'il y a très très peu d'opposition à la peine de mort, puisqu'en plus comme ça se fait un peu caché.
Ils en parlent très peu, en fait.
Très très peu, c'est-à-dire que même les ligues de droits de l'homme locales sont assez peu causantes sur le sujet, il faut le dire. Mais il y a quand même des gens qui, au niveau des intellectuels, puis même des familles des victimes de la secte Aoun, qui trouvent tout ça très regrettable. Hein, c'est le mot que j'ai pu lire dans la presse. Pourquoi? Parce que cette secte Aoun, finalement, on n'en sait pas tout. Les procès nous ont amené quelques explications. C'est-à-dire qu'on a appris qu'il y avait eu plusieurs tentatives. Alors déjà, il y en a eu une en 94, hein, qui avait touché et tué des gens. Mais avant 94, avant 95, depuis la fin des années 80 jusqu'à 95, il y a eu diverses tentatives d'attentats au gaz. Alors ils avaient cherché et le virus Ebola à un moment aussi. Enfin, ils ont cherché tout plein de moyens d'assassiner des gens, hein, au niveau de la secte. Et puis on a su aussi que des membres qui avaient essayé de se barrer, qui avaient refusé de payer, avaient été assassinés par la secte. On a su aussi qu'il y avait eu des gens qui étaient morts par des pratiques de yoga absurdes, avec la tête en bas, et qui étaient morts, et les corps avaient été brûlés. Ça, c'est des choses qu'on a appris après. Par contre, il y a des choses qu'on a appris avant 95 sur les agissements de la secte. Et il y a des familles aujourd'hui qui continuent à pointer les échecs de l'enquête et les erreurs de la police à l'époque, qui n'a pas voulu entendre les plaintes qui avaient été amenées avant l'attaque de Tokyo, qui n'a pas voulu écouter certaines familles, qui n'a pas voulu regarder les preuves qui pouvaient viser certains agissements de membres de la secte Aoun. Et aujourd'hui, il y a quand même une plainte en disant c'est bien, bon, on s'est débarrassé des membres principaux de la secte Aoun. Et puis quoi? En fait, on n'a toujours pas fait le procès de notre police, de nos enquêteurs, qui à l'époque n'avaient pas voulu enquêter correctement, n'avaient pas voulu sanctionner correctement des agissements. Et quand l'attentat de 95 est arrivé, il est arrivé parce que d'un seul coup, la police était intervenue sur une enquête, qu'elle est allée très vite et que la secte Aoun semble s'être dit à un moment... ça y est, on a l'enquête aux fesses, donc on va aller tout de suite faire cet attentat, c'est-à-dire qu'il a été précipité, reste qu'il y a des morts, hein, et que la peine de mort, en tout cas, comme tu le dis, ne sert à rien, puisque les gens continueront à assassiner d'autres gens, et qu'en plus, ça ne permet pas aux familles des victimes, aujourd'hui, d'avoir une réponse, et aux victimes, hein, celles qui ont été blessées, d'avoir des réponses sur les pratiques de cette secte Aoun, et pourquoi pendant si longtemps, pendant une décennie, on les a laissés assassiner des gens. Alors certes, ils ont brûlé des gens en secret, mais il y avait quand même un moment des témoignages et que personne n'a voulu entendre ces témoignages sur une secte. Je vais continuer juste pour vous donner des nouvelles de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Vous vous souvenez, il y a un moment, j'avais fait un feuilleton en vous expliquant que l'Arabie Saoudite tuait massivement et tuait beaucoup d'un coup. Hein. Bon, et vous me direz, il y a l'Iran, tout ça, mais on s'était pris quand même d'une passion pour cet État assassin. Et bien là, c'était juste pour vous dire que c'était le 17 juillet dernier en Arabie Saoudite. 7 personnes ont été condamnées à mort pour meurtre ou trafic de drogue ont été exécutés, paf, d'un coup, allez, ça y est, ça c'est fait, hop, 7, on y va. Alors, il y avait 2 Saoudiens, des Tchadiens, un Libanais, et un autre Saoudien qui, lui, était accusé, donc, de meurtre. Donc là, pour l'instant, nous en sommes à 73.
Ah, c'est pas mal.
Assassinat en Arabie Saoudite. Oui, c'est pas mal, hein. Je vous rappelle qu'en 2017, on était à 150. Donc on est à la moitié de l'année, 73. Un record peut-il être encore battu, puisque l'Arabie Saoudite aime bien dépasser ses propres records, même si bon, 2016 avait été une bonne année aussi, hein, tout ça. Il paraît que Mohamed Ben Salam, vous savez, le prince,
le petit jeune là,
héritier, hein, a dit que peut-être que parfois la peine de mort pourrait être transformée en prison à vie dans certains cas, puisque en Arabie Saoudite on assassine beaucoup, hein, l'État assassine beaucoup. Alors il y a évidemment le meurtre, mais la drogue, enfin le viol, le vol à main armée, le terrorisme, ce qui fait que y a beaucoup de gens qui passent quand même au sabre. Voilà, c'était parce qu'il y avait longtemps que je ne vous avais pas parlé de l'Arabie Saoudite, et pour ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se faire exécuter à travers le monde pendant que vous êtes à la plage.
Alors je vais parler d'un licenciement de 250 personnes. Et c'est surprenant, c'est pas une entreprise qui licencie, c'est une agence de l'ONU. Une agence un peu particulière, d'ailleurs, qui est unique, hein, en son genre. C'est l'agence pour les Palestiniens. Ça s'appelle l'UNRWA. WA plutôt. Donc c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe des déplacés palestiniens et qui gère les camps. C'est une agence unique parce que, en général, quand des gens sont déplacés de leur pays, ils partent, il y a une agence de l'ONU qui s'en occupe. Et après, ces gens, ils reviennent dans leur pays. Et donc, les gens qui s'occupent des réfugiés, en ce moment, enfin, il y a eu cette année les Rohingyas, à un moment, ça se restabilise, ils repartent, etc. Ils changent un peu de réfugiés. Cette agence de l'ONU, c'est que sur les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que il n'y a toujours pas eu de possibilité de retour des Palestiniens sur la terre que leur a volée les Israéliens lors de la création de l'État d'Israël. Donc, on a des situations assez incroyables, hein. On a des camps avec des troisième génération de Palestiniens qui sont toujours considérés comme des réfugiés, pourtant qui sont nés là. Mais effectivement, ils sont palestiniens et ils voudraient rentrer en Palestine, c'est-à-dire dans leur village, le village de leurs parents, de leurs grands-parents, qui se situe aujourd'hui en Israël. Donc on a une agence comme ça qui a un rôle unique, hein, au sein de l'ONU. Et cette agence, elle est financée par beaucoup, et notamment par les États-Unis. Et puis Trump, quand il est arrivé, il a dit, hop, on arrête. Donc il donnait 300 millions de dollars. Enfin non, il donnait, je ne sais plus combien il donnait d'ailleurs, et il a baissé de 300 millions de dollars. Ah oui, il donnait 360 millions, il en donne plus que 60. Du coup, l'agence de l'ONU a plus de thunes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils licencient donc 250 personnes, sont essentiellement des Palestiniens, d'ailleurs souvent réfugiés, qui travaillent au sein de leur propre camp, et qui sont payés par cette agence de l'ONU pour faire de l'éducation, pour faire pas mal de choses. Hein. En échange, ils n'ont pas le droit de faire de politique, etc. Il y a des contraintes aussi, ce qui paraît logique, hein, d'ailleurs. Et donc, eux, ils ont appris, comme ça, de but en blanc, qu'ils allaient se faire licencier. Donc, ça touche Gaza et puis un peu la Cisjordanie, hein, parce qu'il y a des camps, un camp à Bethléem, enfin, il y a des camps un peu partout. Mais il y a des camps au Liban, des camps palestiniens, il y en a malheureusement dans les pays autour. Et donc, voilà. Alors, ils ont même décidé de faire une grève. Alors, ça n'aura sûrement pas d'impact au niveau de l'ONU, mais ils font une grève dans l'agence de la bande de Gaza. Donc voilà, il faut savoir que cette agence emploie quand même 20 000 personnes au Proche-Orient. Bah oui, il faut gérer des millions de Palestiniens, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était pour signifier ça. Quand les États-Unis font des choses, des fois ça a un impact sur la vie des gens, et ça voilà, ça a un impact sur des Palestiniens qui sont déjà dans des situations qui sont pas faciles. Mais c'est une triste nouvelle, mais bon, alors a priori, ils avaient lancé un appel hein, quand même, quand les États-Unis s'étaient désistés à donner autant, enfin, ils avaient dit qu'ils donneraient moins d'argent, et j'ai, bon, a priori, aucun pays n'est venu compenser, malheureusement. Parce qu'ils ne donnent pas tant que ça, et même un pays comme la France aurait eu les moyens de compenser, même en partie, mais même totalement. Voilà.
Alors on va parler de censure et de répression, on va commencer par les caricaturistes, et on terminera par un truc plus drôle. Je vais d'abord partir en Israël, c'est un illustrateur caricaturiste, Avi Katz, qui vient d'être licencié pour une caricature, il était en poste depuis 1990, je suis en train de chercher le nom de son journal, le Jérusalem Post, excusez-moi. Alors, vous vous souvenez, il y a eu une loi qui est passé, qui place Israël comme un état-nation juif. Ça a fait évidemment beaucoup causer.
Donc il a fait des dessins pour
alors, Avi Katz, il s'est servi en fait d'une photo qui a été publiée par un membre du Likoud, un député qui s'appelle Oren Hazan. Oren Hazan, il a fait un selfie, un portrait avec ses petits camarades, dont le premier ministre, monsieur Netanyahou. Et cette photo a été diffusée sur les réseaux commerciaux. Avi Katz, il s'est servi de cette photo comme modèle et il a illustré cette affaire qui le gêne a priori en partant de travail de George Orwell, La ferme des animaux, et donc toutes les petites personnes sur la photo d'Oren Hazan sont devenues des cochons. Je vous laisse imaginer le scandale d'utiliser des cochons dans le judaïsme, hein, le cochon est impur, et de transformer donc le Premier ministre, monsieur Netanyahou, en cochon, avec ses petits amis autour. Ça fait un scandale.
Alors peut-être que ces gens-là n'avaient jamais lu La ferme des animaux.
Oui, puisque je vous rappelle qu'il s'est basé, enfin je vous le rappelle, je vous le dis, il s'est basé sur Avi Katz. Alors lui, il ne communique pas Avi Katz, c'est les autres qui communiquent pour lui, sur une phrase, tous les animaux sont semblables, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et oui. Et ça allait bien avec le pourquoi de cette loi.
Je crois que c'est une phrase du bouquin d'Orwell, ça.
Oui, La ferme des animaux. C'est pour ça que je dis qu'il s'est servi de cette œuvre du travail de George Orwell. Et donc, il a publié ce dessin dans le Jerusalem Report, qui est le supplément en fait, du Jerusalem Post. Et là, il s'est fait licencier. Ouais. Donc on ne sait pas toute l'affaire, c'est-à-dire que du côté du journal, on dit que en fait, finalement, il était que pigiste, donc là, ça arrête la relation.
Ouais, pigiste depuis 90 quand même.
C'est ça. Quand même, et là, je me suis dit, attends, mais c'est quand même curieux, quoi, cette affaire, non ? Voilà. Alors certes, il est soutenu par tout plein de gens. Il y a un auteur qui s'appelle Haïm Watzman qui a donné sa lettre de démission du Jérusalem Report. Lui aussi, il a décidé que, puisque son collègue était licencié, lui, il démissionnait. Il a eu beaucoup de soutien, hein, heureusement, Avi Katz, parce que simplement, comme tous les caricaturistes du monde entier, il a le droit de faire de la caricature, il a le droit de se moquer de son premier ministre Netanyahou et surtout il a le droit de critiquer les lois qui sont mises en place par son pays, par sa nation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus Avi Katz, il est d'abord illustrateur, il fait des dessins, il fait de la caricature, mais il est aussi très connu pour sa Bible illustrée pour les enfants. Il a eu des prix pour ça. Donc à la base, c'est pas un sale anarchiste rebelle comme on peut en avoir chez les caricaturistes. C'est un homme juste qui défend aussi des valeurs et des idées et qui s'exprime par le dessin et la caricature et les illustrations. Donc voilà, Avi Katz, c'était le premier dont j'avais envie de vous parler. Et puis ça va être un peu plus rapide, c'est Reporters sans frontières qui nous parle de Jian Yefei. C'est un caricaturiste chinois, il vient d'être condamné à 6 ans et demi de prison. Alors, a priori, il a été condamné le 13 juillet dernier, mais on vient juste de l'apprendre, donc Reporters sans frontières demande maintenant sa libération. Il avait l'habitude de publier ses dessins, ses caricatures, ses dessins satiriques dans un magazine en ligne, Boxon, un truc des États-Unis d'Amérique. Il était réfugié en Thaïlande depuis 2008, Et il a été arrêté donc en 2015 à la demande des autorités chinoises qui l'ont fait rapatrier. Alors qu'en fait, il n'aurait pas dû être rapatrié puisque il avait obtenu un statut de réfugié en Thaïlande. Donc en fait, la Chine n'aurait jamais dû récupérer ce caricaturiste chinois. Et il n'aurait jamais dû être arrêté et condamné à ses 6 ans et demi de prison. Il était évidemment dans le collimateur pour des caricatures qui plaisent pas du tout. Il en avait fait une de Xi Jinping, a priori, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a été quand même à l'isolement, vous imaginez, hein, depuis 2015. Personne n'a su exactement ce qui se passait. On peut penser que, comme tous ceux et toutes celles qui sont arrêtés par les autorités chinoises, il a subi des traitements contre les droits humains, c'est-à-dire qu'il a été torturé, hein,
ouais,
disons-le
peu,
tout simplement.
Rien que l'isolement, en fait, pendant une durée relativement longue, c'est de la torture. Il n'y a même pas de taper sur les gens, quoi. Ils deviennent fous au bout d'un moment, tout seul.
Et comme vous savez que j'aime beaucoup les classements, juste pour vous rappeler le classement mondial de Reporters sans frontières, le classement de la liberté de la presse, la Chine est au 176e rang sur 180 pays. C'est pas mal, voilà. Et alors donc, ça c'était pas les deux trucs drôles, mais je vais finir avec un truc drôle. Alors ça part d'un truc forcément pas drôle, puisque c'est Facebook encore qui amène une censure sur son réseau commercial. Vous savez, il y a un algorithme qui paraît qui fait qu'il y a des choses qui passent pas. Alors, je vous rappelle qu'il y avait eu, on a vu quoi, l'origine du monde de Courbet, la photographie de Nick Hutt, vous savez, avec la gamine qui court avec le napalm en 72 au Vietnam. Et là, donc, c'est la descente de croix de Rubens qui a fait qui a été censurée par l'algorithme de Facebook. Alors, la descente de croix de Rubens, c'est quand même un tableau religieux avec Jésus dessus et la croix. Enfin, je le dis, juste, il faut reposer les choses, c'est pas l'origine du monde de Courbet,
ouais,
avec une femme et son pubis.
C'est pas acceptable pour un puritain américain, l'origine du monde, quoi.
Ah oui, bah alors là, même la descente de croix, tu vois, a été censurée. Donc, il y a une mobilisation en partie du côté des musées flamands. Et donc là, on a l'Office de tourisme Vlaanderen qui a lancé un mouvement de contestation accompagné de la maison de Rubens à Anvers. Et puis, il y a d'autres musées qui s'y mettent, hein, en Flandre. Et il y a une lettre ouverte qui a été écrite à l'attention de Monsieur Zuckerberg. Et il y a une chouette petite vidéo qui a été tournée par l'Office de tourisme que je vous conseille d'aller voir. C'est très bref. C'est très, très drôle. Je pense que moi, l'humour, c'est un bon moyen de lutter contre la censure, surtout quand c'est très pertinent. Nous avons donc des hommes avec des blousons siglés FBI pour Facebook Intelligence, hein, le Facebook, eh ben oui, c'est, hein, sa copie, donc ça parodie le Federal Bureau of Investigation, tellement connu des séries des États-Unis d'Amérique. Et donc, avec leur sigle FBI, ces agents interpellent les visiteurs. Ils vont donc, ils sont à la maison de Rubens à Anvers, et ils vont donc trouver les visiteurs devant l'étoile des maîtres flamands, et il leur dit non, attendez, là c'est indécent. Donc soit ils cachent les yeux des visiteurs en leur mettant les mains, hein, devant les yeux, soit alors ils font des grands gestes, je montre à Laurent, hein, ils m'essayent d'imaginer, avec leur corps ils cachent les tableaux, qui sont pourtant souvent des grands formats, ouais. Ils mettent les bras en l'air pour essayer de... et puis ils bougent, vous voyez, un peu comme, hop, si vous l'arrêtez la balle au football, pour essayer de cacher les nus qui pourraient se trouver dans ces tableaux. Et puis sinon ils prennent par les épaules les visiteurs et les visiteuses et les emmènent devant des tableaux dits saints et sans danger. Et donc c'est une réponse à Mark Zuckerberg, à son algorithme et à Facebook, pour dire ben voilà mon ami, ce que ça donne de la censure si jamais on l'applique dans ce qu'est le monde réel, c'est-à-dire qu'on a donc des gens qui vont donc nous emmener devant les tableaux sains et sans danger. Juste une petite affaire aussi avec Facebook et la Chine. Facebook essaye de s'installer en Chine, vous savez, depuis un petit moment. Alors il y a des petites applis qui s'appellent Pass Facebook, hein, des petites choses comme ça qui permettent de contourner un petit peu la non-autorisation. Et alors, ce qui était marrant, c'est que la multinationale avait reçu une autorisation des autorités chinoises le 18 juillet dernier. Et bien, en fait, hier, cette autorisation a été retirée, finalement. L'idée de Facebook, c'est de vouloir installer un hub technologique à Hangzhou, c'est dans l'est de la Chine. Et il semblerait que l'administration Internet chinoise n'était pas contente que les autorités locales de Hangzhou aient donné une autorisation à Facebook sans passer par la bonne hiérarchie. Donc, Facebook fait un peu... Ben, se tape en fait les problématiques chinoises internes hein, et n'arrive pas à s'installer. En plus de ça, Facebook a des petits soucis avec ses résultats trimestriels qui restent très très bons, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Mais en fait, Facebook m'a subi le jeu de la spéculation sur ses actions et donc perd de l'argent.
100 milliards d'euros.
Ouais, alors en fait, il ne faut pas oublier que Facebook en avait beaucoup gagné il y a quelques temps.
Aujourd'hui, donc, avec ça 18% de chute, ils ont rien perdu du tout. Hein. La valeur de l'entreprise.
C'est pour ça qu'il faut bien parler de spéculation.
Hein. A perdu 100 milliards. Vous imaginez, il y a des PIB de certains pays qui sont plus petits que ça. Hein. C'est incroyable.
Donc c'est très drôle. Enfin, en tout cas, cette histoire de la Chine, ça me fait marrer parce qu'à côté de ça, Google s'est bien installé en Chine et va pouvoir bientôt enfin exister. Ben, ils arrivent à s'installer sur de la technologie, pas sur la partie Internet, mais sur la technologie et plus avec d'autres activités d'Alphabet, pour tout dire.
Voilà. Alors, on va parler pollution, parce que si vous sortez dans la rue, vous vous rendez compte qu'il y a des soucis. Donc, la qualité de l'air est ultra médiocre. Pollution à l'ozone, ce qui est ultra habituel depuis 40 ans, notamment à Lyon, hein, où on a souvent un climat anticyclonique et chaud au mois de juillet et surtout au mois d'août. Donc là, c'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui donne les informations, qui donne les chiffres. Bon, ça va pas s'améliorer avant samedi, puis de toute façon, ça va s'améliorer très brièvement et après ça va revenir catastrophique. Alors pour l'instant, les mesures qui ne servent à rien, puisque c'est toujours des mesurettes, hein. Très peu de personnes en France, élues ou responsables, n'a le courage de faire des choses contre la pollution, qui est essentiellement due aux voitures, hein, on le rappelle. L'ozone est un sous-produit issu de l'interaction d'un polluant et issu des moteurs à combustion et du soleil. Mais c'est pas le soleil qui crée l'ozone en fait, il faut qu'il y ait le polluant. En temps normal, il n'y a pas d'ozone quand on n'a pas ces imbéciles qui polluent. Donc là, ils réduisent la vitesse de 20 km/h, des choses qui n'ont aucun impact, on l'a vu, c'est en route depuis hier. Ce qu'on notera d'ailleurs, c'est que l'incitation aussi à dire aux gens, on sait, ça vient de l'automobile individuelle, arrêtez de prendre votre voiture, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a aucune baisse sensible de l'utilisation des voitures en ville dans les pics de pollution. Donc, comme d'habitude, l'air est qualifié de médiocre, on est à 87 sur 100 en qualité de l'air. Quand on a 0, c'est de l'air respirable normalement sans pollution. Donc on a 87, hein, avec des problématiques de santé. Mais la ville de Lyon, Képenikian, la métropole ont décidé de ne rien faire. Alors il y a un pays qui bouge un petit peu sur ces problèmes de pollution, alors c'est un des deux arguments de la pollution, c'est l'Estonie. Puisque l'Estonie, c'est devenu le premier pays européen à offrir le bus gratuit pour toute la population. Jusqu'à maintenant, on connaissait des villes, même françaises, il y en a quelques-unes, qui ont fait les transports en commun gratuits. Mais à l'échelle d'un pays, c'était jamais arrivé. Donc là, c'est arrivé à l'échelle d'un pays. Alors même si tous les comtés participent plus ou moins, c'est 11 sur 15 en fait en Estonie, c'est officiellement... Le pays décide que les bus sont gratuits. Alors il y a deux objectifs. Il y a un premier objectif qui n'est pas lié du tout à la pollution, qui est lié à l'idée de contrer je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, quand les paysans viennent en ville.
L'exode rural.
L'exode rural, puisque nous on n'a plus d'exode rural, hein, mais enfin presque plus. C'est un pays qui se modernise depuis, on va dire, 1989-90, et qui ont encore massivement de l'exode rural. Et pour contrer cet exode rural, parce que ce qui se passe, c'est que les gens à la campagne se sont isolés, n'ont pas forcément de voiture, donc il n'y a pas d'autres moyens de transport, à part les bus, mais qui sont relativement chers. Donc les personnes qui restent dans ces zones-là sont coincées. Donc l'idée, c'est de désenclaver les campagnes estoniennes avec ces transports de bus gratuits. Donc, a priori, il y a des chances que ça marche, hein, parce que ça serait un truc plutôt pratique. Et la deuxième idée, c'est le Parlement estonien, hein, qui avait décidé l'an dernier de limiter la consommation nationale de carburant fossile. Donc, pour ça, il faut mettre en place des choses, hein, pour arrêter cette consommation de pétrole, en fait. Donc, c'est une mesure qui est incitative, hein, puisqu'on le sait. Alors, mesurer l'impact que ça a sur la voiture, c'est toujours un peu difficile. D'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes, puisque ils ont eux-mêmes en Estonie des exemples. Tallinn, la capitale, est en transport gratuit depuis déjà un petit moment. Et ça n'a pas fait baisser le nombre de voitures en ville. Par contre, ça a fait baisser l'utilisation des voitures. C'est-à-dire que le nombre de voitures, les gens ont plus de voitures parce que le pays s'enrichit. Mais par contre, il y a moins d'utilisation de voitures parce que les gens ont le réflexe de prendre le bus quand ils font une distance courte. On rappelle, il y a 50% des trajets qui font moins de 5 km, donc qui sont faisables avec plein d'autres moyens. Donc, ils arrivent à lutter là-dessus. Eux, ils ne sont pas arrivés encore à lutter contre le nombre de voitures au sein de la population, parce que la population est en phase d'enrichissement récente. Mais ils ont bon espoir d'y arriver sur le moyen terme, et alors de gagner carrément sur le long terme la lutte contre la pollution liée aux moteurs à explosion. Donc voilà. Alors, il y a un impact négatif sur ce chose-là qui n'existe pas dans les transports en commun de ville, c'est que ça va faire concurrence au rail. Parce que le train reste payant. Et il y a des gens qui utilisaient de ville à ville, qui avaient le choix entre les bus et le train. Et ces bus devenant gratuits, puisque tous les bus deviennent gratuits, même les bus qui font de Tallinn de ville à ville. Donc là, ils ont une petite inquiétude sur que ça fasse pas trop concurrence au train. On rappelle quand même que le train, ça pollue un peu moins, mais ça pollue moins qu'un transport en commun comme le bus, quoique ils sont pas toujours électrifiés, les trains en Estonie. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon exemple de ce qui pourrait être faisable. Alors, on n'en parlait pas à Kepenekian, parce que comme il répète bêtement ce que Gérard Collomb lui dit, Gérard Collomb a toujours été contre les mesures de protection de l'environnement, notamment celles liées au transport gratuit. Et surtout, il est adepte de la religion de la voiture, hein, c'est un gourou de la voiture, il veut surtout pas limiter la voiture de manière importante. Donc on n'aura pas ça chez nous, mais voilà, ça évolue plutôt pas mal dans certains pays d'Europe. Je vais parler des OGM, et avec une bonne nouvelle, on avait parlé déjà il y a pas mal de temps sur la nouvelle forme et les nouveaux OGM. Je vais réexpliquer un petit peu ce que c'est que les OGM, donc organismes génétiquement modifiés. Pour modifier, il y a deux méthodes. Il y a la transgénèse, c'est la méthode qui était utilisée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on prend un gène, par exemple d'un poisson, qu'on ingère dans le gène du maïs, et puis ça va avoir des propriétés sur le maïs. Alors on fait ça avec des gènes pour faire grossir les plantes plus vite, pour qu'ils soient pas sensibles à un insecticide ou un pesticide, et comme ça on pourra mettre du pesticides, tu auras tout le reste autour et pas les plantes, etc. Donc il y a une grosse lutte en Europe, hein, contre ces OGM-là. Et puis il y a d'autres méthodes pour modifier le contenu génétique de plantes. Alors il y a les méthodes traditionnelles, hein, qui sont acceptées par tout le monde, de croiser du riz qui vient de tel endroit qui a telle propriété avec du riz qui vient d'un autre endroit qui a d'autres propriétés. On fait des croisements pour arriver à améliorer. Mais ça c'est des croisements qui sont naturels, qui n'induisent en général pas d'effet négatif sur la santé potentielle des gens et sur l'environnement encore moins, puisque c'est juste des croisements d'espèces qui arrivent aussi dans la nature naturellement, même si là c'est une nature qui est orientée dans son développement. Et puis par contre, il y a une dernière forme qui s'appelle la mutagénèse. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait muter. Alors en général, on prend des graines ou des plants et on les fait rencontrer des substances radioactives, hein, comme s'ils étaient en train de pousser à côté de Fukushima. Et ça entraîne des mutations. Et après, on fait pousser les plants et on regarde est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu. Alors souvent on perd, hein, parce que les plantes elles sont abîmées génétiquement. Mais des fois, il y a des gains intéressants pour l'industrie agroalimentaire. Hein, c'est de ça dont il est question. Et jusqu'à maintenant, ces méthodes-là n'étaient pas considérées comme des OGM. Alors il y a un recours qui avait été déposé par 8 organisations françaises et la Confédération paysanne au niveau d'un tribunal européen, la Cour de justice de l'Union européenne, très exactement, pour dire nous on veut que tous les OGM, que ça soit par transgénèse ou par mutagénèse, soient considérés comme des OGM. Et ben ça y est, la justice européenne a décidé que ce serait tous des OGM et qui vont donc être soumis aux mêmes exigences, donc notamment un fabricant de semences issues de la mutagénèse vont être obligés de montrer que c'est pas dangereux. Alors ils tricheront peut-être un peu comme on a déjà vu, mais bon, ils rentrent dans la procédure classique d'autorisation des organismes génétiquement modifiés. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça rentre aussi dans l'étiquetage des produits que vous achetez, comme ça on peut choisir ce qui est génétiquement modifié ou pas. À condition que c'est un produit direct. Je vous rappelle que la plus grosse problématique aujourd'hui des OGM, c'est qu'ils sont donnés à manger. C'est du soja essentiellement qui est donné à manger aux animaux. Et là, quand vous mangez le steak, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Hein. Sauf si c'est bio, puisque c'est interdit. Mais sinon, dans le reste, voilà, vous mangez indirectement des OGM. L'impact, a priori indirect, il serait quand même beaucoup plus faible et moins risqué que direct. Mais il y a très, il y a pas d'études qui ont travaillé vraiment sur le long terme hein, sur ça. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre au gouvernement français, qui attendait la réponse aussi, de se positionner, de mettre en œuvre les choses pour rétablir. Donc voilà, tous ces plantes qui sont mutées, quelle que soit la manière, sont considérées comme des OGM et vont être encadrées. Donc c'est une très bonne nouvelle et il n'y en a pas tous les jours des bonnes nouvelles. On parle cinéma ?
Allez, on va parler d'un film qui s'appelle Une pluie sans fin, alors de Dong Yue. Je ne suis point tout à fait sûr.
Moi j'aurais dit Dong Yue.
Donc ouais, alors voilà, c'est mal, c'est notre dernier Canu Info et je n'ai pas été vérifier notre source pour savoir exactement comment nous devions bien prononcer ce nom. C'est un premier film, une pluie sans fin. C'est une histoire qui se passe en 97 dans le sud de la Chine. On est avant la rétrocession de Hong Kong. On est en pleine mutation en Chine avec des nouvelles réformes qui touchent l'économie chinoise. Et dans cette province industrielle, des meurtres sont commis. Ce sont des femmes qui sont visées. Et nous avons un chef de la sécurité d'une usine d'État, bien évidemment, Yu, qui se met dans l'idée d'aller enquêter sur les meurtres de ces femmes.
Il rêve d'être policier, il n'a pas l'occasion de l'être, et donc du coup, c'est l'occasion qui se présente et il va enquêter à la place de la police. En
Alors,
fait,
je suis
parallèle.
Pas sûr que moi, il rêve d'être policier. Moi, je pense surtout qu'il rêve d'être au centre de l'action, d'être sur le podium à la chinoise, c'est-à-dire d'avoir les décorations. Et Yu va non plus mener une enquête, mais une quête qui va le faire tomber, va lui faire perdre pied à la recherche de cet assassin. Alors, c'est un film... C'est un polar, mais finalement, cette enquête, c'est pas l'idée principale de ce film, même si évidemment, on le suit en train de chercher l'assassin, mais c'est pas ça le fond du propos, en tout cas, je trouve.
Ah non, c'est l'histoire de ce personnage qui est trop obnubilé par cette enquête et qui va faire n'importe quoi, qui pète un câble, vraiment.
Oui, parce qu'il se considère comme un employé modèle qui serait représentatif de ce qu'il faut être comme travailleur au sein de cette société chinoise. Et c'est ce qui a intéressé ce réalisateur qui a commencé à un moment à découvrir des documentaires sur les années 90 et sur ces usines en Chine. Et pour lui, en fait, la décennie 1990 s'arrête en 97, c'est-à-dire l'année où commencent les réformes chinoises qui vont mettre au chômage une partie des ouvriers chinois et des ouvrières chinoises. Et donc là où tout le monde semblait être pas tout à fait convaincu, mais en tout cas pouvait faire croire que le modèle chinois était une réussite, puisque tout le monde avait un travail, ben là, les choses commencent à se fissurer en Chine, et en particulier dans ces villes industrielles, où rien n'a été développé à part la notion du travail.
Et puis l'industrie lourde, c'est un peu...
Les aciéries.
Ouais. Voilà, c'est un peu la même chose que dans les anciennes villes ou régions françaises avec l'industrie du début du XXe. Nous, ça a changé il y a un petit moment, dans les années 60, à la fin des années 60, début des années 70. Eux, ça a mis 30 ans de plus, mais on est dans ce basculement de la grosse usine, de la grosse industrie vers autre chose.
Oui, alors c'est aussi une recherche de l'identité. Finalement, on a quelque chose qui s'écroule, il faut se reconstruire, et c'est aussi ce que ce chef de la sécurité, Yu, est en train de vivre lui-même dans cette ville qui est en train de complètement changer. Alors c'est vrai qu'on a bien aimé finalement cet acteur, ce rôle principal. Alors je vais encore une fois me tenter à la prononciation chinoise, Duan Yiyong, qui joue donc Yu. Et puis on aime aussi, enfin moi j'aime en tout cas beaucoup l'atmosphère du film. C'est un film qui est lent, vous attendez pas à Mission Impossible avec Tom Cruise. Et puis à ce qui n'a pas plu d'ailleurs à certains critiques parisiens, rien. C'est un univers gris. C'est un film qui pose sa caméra. Certes, elle est très présente, mais qui suit aussi beaucoup les lignes de ces usines industrielles, les cheminées, les escaliers. Vous savez, tout ce qui fait circuler d'un point A à un point B tous les matériaux. On a un réalisateur qui joue beaucoup avec ses cadres, avec ses formes, et qui finalement met très en avant ces usines chinoises et cette industrie. Donc moi j'aime beaucoup cette manière de mettre du relief dans cette grisaille. Et puis il y a une pluie battante.
Hein. Ah oui, il pleut tout le temps.
Il pleut tout le temps. Moi je trouve l'affiche du film très très belle, avec cette foule qui tourne le dos en imperméable mouillé. Et puis c'est ce visage unique de Yu qui nous regarde, en tout cas qui est là face à nous. Et donc c'est une intrigue qui est prétexte à faire le portrait d'un homme et d'une société en train de s'écrouler, en train de changer, et comment une société chinoise, les autorités chinoises ont rendu encore bien plus grise la vie des ouvriers et des ouvrières, avec des réformes qui n'ont cessé de s'enchaîner depuis les années 90. Donc moi c'est quelque chose qui m'a plu, mais qui semble ne pas avoir plu à tout le monde. En tout cas il me semble que toi aussi tu as bien aimé le film. Alors, moi j'aime beaucoup ces décors industriels, on a l'impression que c'est sans fin, la poussière, la boue, la pluie.
Ça reste un polar, on essaie de comprendre qui tue qui, enfin voilà, qui c'est ce meurtrier là, qui tue des femmes. Voilà, on a la réponse juste à la fin et je la donne pas, puisque alors le film.
Pour une fois, tu ne vas pas raconter la fin, s'il te plaît, tu vas même pas l'évoquer, merci bien. Alors, je te vire parce que ta langue, elle fourche après. Alors, il y a des gens qui tout de suite ont voulu mettre un parallèle avec un autre film, celui de Bong Joon-ho, qui est sorti en 2003. Il s'agit de Memories of Murder, c'est un film sud-coréen.
Moi, je trouve que ça n'a rien à voir.
Qui est une petite merveille, rappelons-le. Qui est une merveille. Non, mais là, c'est une merveille, Memories of Murder. Sauf que je trouve que c'est une erreur de vouloir mettre côte à côte ces films. D'abord parce que s'il y en a un qui est coréen et l'autre qui est chinois, qui racontent pas la même chose.
Et puis que pas du tout la même.
La société n'est pas la même. Et qu'en plus de ça, on a un réalisateur coréen qui parle d'une époque, qui parle des serial killers, d'un serial killer, le premier en Corée du Sud, en tout cas c'est son propos. Et puis qui surtout parle de la police, de la corruption, de l'inefficacité. Il y a un humour noir, c'est un polar très rude et très brutal, ce qui n'est pas du tout une pluie sans fin. On n'est pas dans la brutalité policière, il n'y a pas du tout cette question-là. Là, on nous parle de mutation, mais pas de la police, pas de la corruption, c'est pas le propos de ce réalisateur chinois. Vous avez vu, je fais tout pour pas reprononcer son nom. Et d'ailleurs, lui-même ne se place pas du tout dans le même objectif. Je pense que Bong Joon-ho, quand il a sorti son Memories of Murder, qui encore une fois, si vous l'avez pas vu, c'est absolument à voir. Donc je trouve que c'est une erreur. Parce que quoi ? Je pense qu'il y en a qui ont voulu mettre en parallèle les scènes d'ouverture avec un corps d'une femme dans un champ. Mais une fois qu'on a passé ça, et la désertude industrielle des plans, il n'y a rien à mettre en parallèle, et c'est une erreur pour moi. Et en plus de ça, ça ne peut que rabaisser une puissance sans fin, puisque Memories of Murder est un chef d'œuvre absolu, enfin en tout cas pour moi, et que c'est bien dommage de vouloir tout de suite taxer un réalisateur chinois avec son premier long métrage, et de vouloir lui mettre des comparaisons inutiles pour un film qui est à voir, parce que c'est aussi une histoire de la Chine, ce n'est pas un film de genre avec du kung-fu, c'est pas un film de genre avec des gens en costume historique, donc c'est plutôt bien aussi d'avoir du cinéma chinois de ce type qui arrive ici dans nos salles. Voilà, je vous laisse aller découvrir, on vous en dit pas plus. Et il nous reste quelques minutes pour parler de Parcoursup.
Ah bah c'est la dernière étape peut-être, enfin on fera peut-être le bilan à la rentrée puisque là c'est catastrophique. Donc, alors, le gouvernement est empêtré dans cette affaire, hein, puisque Parcoursup c'est une catastrophe, hein, ça on en est tous conscients maintenant. Ils ont décidé d'essayer de cacher les choses. Alors, en ce moment, la Macronie est championne du monde de tentatives de cacher les choses et ça foire plutôt pas mal. Donc là, comme ils ont énormément de lycéens qui sont toujours en attente d'une affectation dans le supérieur, ils ont une idée, et ils ont une idée de faire du surbooking. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont demandé aux universités de prendre 10% d'élèves en plus. Alors l'idée derrière ça, c'est de dire, de toute façon à la rentrée, chaque fois, il y a en moyenne, alors je sais pas, moi j'avais jamais vu ces chiffres, mais ils les donnent, en moyenne il y a 10% d'élèves qui ne vont pas dans les sections qu'ils ont choisies. Mais alors vous êtes, c'est une moyenne, parce que ça se trouve tous les élèves qui ont choisi STAPS, ils vont en STAPS, et puis c'est plutôt dans la section de mathématiques où il y a 20% d'élèves qui y vont pas, du coup la moyenne ça fait 10%, et comme ils vont mettre 10% partout en plus, il y a des élèves qui vont arriver et puis il y aura pas de place. Alors l'État dit non, mais on vous donnera de l'argent en plus si jamais ça arrive. On rappelle que le problème de la fac, c'est pas l'argent à court terme. C'est le système global. C'est-à-dire que là, si les amphis sont pleins, il faut ouvrir un nouvel amphi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de l'argent, on ne leur donne pas 100 000 euros. Quoi. Il faut créer des postes de profs pour encadrer les nouveaux élèves. Il faut construire des amphis s'il n'y en a pas. Donc ce n'est pas de l'argent à court terme comme ça, une bonification en disant si vous avez plus d'élèves que prévu, on vous donne 5 000 euros par élève, ou je ne sais, enfin le chiffre je l'invente, hein, mais on vous donne des milliers d'euros. Non. Donc c'est n'importe quoi ce que fait le gouvernement. Ça risque de faire quand même pas mal de déçus. Alors ça, c'est la première technique, là, les 10%. Au début, tout le monde croyait que c'était une fake news. Hein. Ça a été donc bien confirmé par tout le monde. C'est bien officiel qu'ils ont augmenté ils font du surbooking, quoi. C'est toujours sympa, le surbooking. Si vous en avez déjà eu quelque part, vous comprenez la douleur. Voilà. Et alors, pour embrouiller tout le monde, ils ont fait un deuxième truc. C'est que depuis lundi dernier, ils ont changé l'interface de Parcoursup. Et l'affichage qui arrive dessus, c'est plus du tout la même chose. C'est plus le même tableau de bord, comme on dit. C'est beaucoup plus complexe. En fait, on retrouve les 600 000 candidats qui ont déjà accepté une proposition. Alors ça, c'est bien mis en avant. Les 18 000 qui souhaitent s'inscrire dans le supérieur via Parcoursup, on les voit aussi. Mais tous ceux qui sont qui n'ont pas du tout de réponse, donc ça concerne pour l'instant 54 000 élèves, hop, ils sont tout en bas, dans un truc caché, pour pas qu'on les voie, et ils sont qualifiés d'élèves inactifs, de candidats inactifs. Donc on les a mis en inactifs, ils n'ont pas trouvé, ils sont inactifs. Et surtout, le chiffre intéressant, c'est les 145 000 qui ont abandonné. Car en fait, il y a 145 000 élèves de terminale qui ont eu le bac, qui ont abandonné Parcoursup. Donc en fait, pour l'instant, on a 217 000 lycéens qui ont a priori pas d'affectation. Alors une partie des gens qui ont abandonné, des élèves qui ont abandonné sont peut-être allés dans le privé, mais il y a aussi pas mal d'abandon, donc de poursuite d'études. Et ça, voilà, c'était l'objectif peut-être de Parcoursup, c'était ça en fait. C'était de faire la sélection, et comme il y a trop de gens, trop d'élèves qui vont dans certaines filières, on va les décourager avant pour qu'ils se retrouvent sans diplôme professionnalisant, à abandonner leur cursus scolaire. C'était peut-être ça, c'est vraiment la honte, c'est juste immonde, c'est bon, voilà, ça s'appelle la Macronie. Mais voilà, aujourd'hui, on a une semaine avec pas mal d'infos qui montrent qu'ils sont quand même dans la panique et qui masquent les choses pour pas que ça se voit.
Alors écoute, je vais terminer par une info écho que je n'avais pas notée sur le déroulé, mais comme ça, il me reste 5 minutes, c'est parfait, parce que ça va être fait en deux. Je vais revenir sur TF1, c'est un groupe avec des profiteurs dedans. Vous savez, c'est le groupe qui a passé la Coupe du Monde.
Un truc capitaliste, oui.
Le groupe a sorti ses résultats pour le premier semestre 2018. En fait, c'est un peu un sujet de... ouais, on vous l'avait bien dit. Voilà, c'est juste pour revenir sur des trucs qu'on a dit il y a peut-être un an, hein, mais c'est juste pour raconter. Donc, on a les résultats. Donc, le chiffre d'affaires est magnifique. Hein, entre janvier et juin, il y a une hausse de 3,9% par rapport au premier semestre 2017. Nous sommes à 1 milliard quelque chose derrière, 0,8.
De chiffre d'affaires ou...
Oui. C'est bien. Ils sont tout contents hein, au groupe TF1. Je vous rappelle que c'est Gilles Pélisson qui est à la tête du groupe. Magnifique, tout ça, chiffre d'affaires génial.
Alors c'est quoi qui les a fait gagner? C'est le foot.
Oui, alors c'est les revenus publicitaires qui effectivement ont amené du chiffre d'affaires. Attention au vocabulaire. Évidemment, Coupe du Monde dit publicité, revenus publicitaires, c'est magnifique. Hein, en particulier la chaîne TF1 s'en est mis plein les popoches. Tout le monde il est content. Là-dessus, il y a une hausse de plus de 28 millions d'euros par rapport à la même période en 2017. C'est magnifique. Sauf que, on vous l'avait dit à l'époque, passer une Coupe du Monde, ça coûte. La rentabilité, elle, est en baisse.
Ah.
Eh bien oui, parce qu'il a fallu acheter ses droits. On vous en avait parlé à l'époque,
hein,
vous avez fait un petit sujet là-dessus. Eh bien oui, mais parce que du coup, les revenus publicitaires, ça ne permet pas d'équilibrer, ça permet de tenter de fidéliser une clientèle qui restera peut-être plus facilement sur la 1 par la suite, parce qu'elle aura pris peut-être l'habitude, de faire revenir une clientèle qui n'était pas habituée au football et qui reviendra regarder du football par la suite sur d'autres événements que la Coupe du Monde. Donc c'était un petit peu aller vers l'avant. Sauf qu'effectivement, le taux de marge opérationnel courant de TF1, il s'est contracté, vous savez, comme on dit. Hein. Donc il est pas bon, parce que Gilles Pélisson, lui, il veut atteindre une rentabilité à deux chiffres d'ici 2019. Et ce qui est marrant dans ces chiffres, c'est que quand on regarde hors Coupe du Monde, il a sa rentabilité à deux chiffres. Quand il y a la Coupe du Monde, pouf, il perd du poids.
Ouais, parce que ça coûte trop cher.
Et parce que ça coûte trop cher. Donc, on vous avait raconté à l'époque ils se battaient les chaînes, hein, les groupes de médias pour obtenir les droits, mais qu'on savait que ça coûte et qu'on savait que ça faisait des revenus publicitaires, mais que c'était pas sûr qu'ils soient suffisamment importants pour pouvoir derrière éponger les droits du football. Et c'est qui les grands gagnants dans l'affaire ? La FIFA.
Bah oui.
Toujours, toujours. Oui, n'oublions jamais que c'est la FIFA qui a la grande gagnante.
Donc une entreprise privée, même si c'est sous forme associative, c'est privé.
Oui, alors on peut parler multinationale quand même.
Oui. Largement, oui.
On vous rappelle qu'il y a eu des affaires de corruption, qu'il y a encore des affaires en cours, qu'il y a certainement encore de la corruption, et que donc on attend la prochaine Coupe du Monde au Qatar, parce que je pense qu'on va se marrer un coup.
Ouais. Et ben voilà, ça va être la fin de ce Canu Info, puisqu'il est bientôt 20h dans 1 minute 40 très exactement. Donc on se retrouve à la rentrée.
C'est ça.
Et d'ici là, passez un bon été. Si vous avez la chance d'avoir des vacances,
profitez-en.
Si vous avez la chance de partir, profitez-en aussi. Et sinon, bon courage quand même.
On vous laisse quand même continuer évidemment à suivre les infos d'une manière ou d'une autre. Pas forcément d'ailleurs en lisant Facebook. Il y a d'autres moyens de se tenir au courant. Il y a des sites militants et les organisations qui toute l'année se battent continuent à faire circuler des informations, qu'elles soient grandes ou petites. Hein, ces organisations de défense des droits de l'homme, les syndicats, tout le monde continue à être actif.
Oui, et
pendant l'été.
Le Canu Info du vendredi sera là aussi de temps en temps, voire régulièrement, donc ça fera au moins un Canu Info dans la semaine.
Ils sont plus nombreux que nous, donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de faire des roulements dans
les
congés. Ils sont plus organisés que nous. Voilà, en tout cas, on vous quitte pour cette saison et on se donne rendez-vous donc pour une nouvelle épisode bientôt. Très bientôt, dans quelques semaines. Vous allez voir, on va vous manquer, Ayaya, ça va être terrible. Préparez vos sujets, envoyez-nous des questions, voilà. Et on mettra ce Canu Info sur les blogs, peut-être tout de suite ou demain, je ne sais pas. Ils étaient en panne, on a eu des petits soucis. Il paraît qu'il fait trop chaud dans les locaux, on vous raconte notre vie, hein. Mais il paraît qu'il fait trop chaud, même dans les locaux de Radio Canu, qui pourtant sont des endroits où il peut faire très très froid. Et ben nos ordinateurs, ils font chpong. Donc si vous n'avez pas eu le streaming, c'est normal, c'est que nos ordinateurs s'arrêtent tout seuls. Et donc vous ne pouvez plus nous écouter en direct. Voilà pour les petites explications.
Allez.
Ciao.